Bé, ara ens parlarà el Ray Gallon. Ell ha treballat al món de la comunicació durant més de 40 anys, tant de periodista com de productor de ràdio, feina per la qual ha rebut diferents premis. Ha treballat amb emissores de bona part del món, com la CFC del Canadà, NPR dels Estats Units, French Culture de França, Radio Netherlands International dels Països Baixos o Deutsche Welle d'Alemanya. Fins i tot durant uns anys va ser director de programes de l'emissora pública de Nova York. És un conferenciant amb dos àmbits, tant amb entorns professionals relacionats amb la comunicació com amb àmbits universitaris, i fins i tot té, bueno, fa més de 20 anys que treballa amb diverses universitats, com la Universitat de New York, la Universitat Paul Valéry de França, la Universitat de París Diderot, i fins i tot a una de Singapur, que es diu Temasek Politécnic. Bé, a tots vosaltres.
Gràcies, Roger. Vaig a fer la presentació en francès, els diapositius són en català. I si hi ha preguntes, pot preguntar en català, francès, anglès, el que vulgui. No. Oui, je vais présenter en français. Ne t'inquiète pas. Voilà. Bien, donc le titre en français, c'est « Quand les briefs font l'art ». Et le sous-titre, c'est « La ville et la radio ». Et donc, pour commencer, cette personne-là, c'est mon ami, mon collègue, et en large mesure, une inspiration. C'est Klaus Schoening qui a créé le Studio für Akustische Kunst à Westdeutscher Rundfunk à Cologne. Et il a fait en fait le modèle, il n'est pas le premier à expérimenter avec la radio, avec le son pur, etc. Mais c'est le premier qui a fait vraiment, qui a créé vraiment un corps d'œuvres des artistes du monde entier qui existent toujours en tant qu'archives à Westdeutscher Rundfunk, et qui a créé une sorte d'école d'art sonore. Et donc il y a des émissions similaires, il y avait des émissions similaires partout dans le monde, mais Klaus, c'est l'originel. Et par là de quel seigneur, Klaus Schoening, qui era un ami et qui a créé un modèle pour tous les programmes d'art sonore à la radio, et qui est une inspiration tant qu'elle est un ami de molts anys. Et Schoening a créé une série qui s'appelle Metropolis, qui sont des portraits des villes partout dans le monde. Là, vous avez quelques-uns. Et parfois, la même ville a été revisitée par des artistes différentes. Et puis, on va parler particulièrement de celui-là, en 2001, sur Barcelone, que j'ai fait moi. Donc il y a Makis, qui est un Grec qui vit en France, qui parle de New York, où moi j'ai grandi. Et maintenant moi, New-Yorkais, Canadien, Français qui vient parler de Barcelone. On est vraiment dans le mondialisme pur et dur. Mais avant, je veux parler d'autre chose qui a fait Klaus parmi d'autres personnes avec l'artiste Bill Fontana, qui est aussi mon ancien copain de la fac. Et donc, ça, c'était un événement qui s'est passé lors de, d'un congrès des experts de radiodrame en allemand, Hörspiel. Et c'était une connexion entre deux installations sonores qui a fait Bill Fontana, une à Cologne et l'autre à San Francisco. Parlo d'un événement radiofonique qui a passé en 1993, qui connectava deux installations de l'artiste Bill Fontana, une en Colonia et l'autre en San Francisco, connectat par la radio. Et ce qui est intéressant de cet événement, c'est que les installations n'ont rien à voir avec la radio. Ce qui est rendu cet événement radiophonique était la connexion. Les deux installations ne tenaient rien à voir avec la radio, però el que ha fet l'esdeveniment radiofònic d'això era la connexió entre els dos, la mescla dels sons de San Francisco i de Colònia. I aquesta plaça aquí era ple de gent, i perquè va ploure i la pluja el jour de l'événement, tout en paraguas, tout le monde avait des parapluies pour écouter le moment où les cordes brumes de San Francisco se mélangent avec les cloches du cathédrale de Cologne. Tout le monde a espéré un moment en que a sonat conjuntament als, com es diu, cordes de brume en català, als vermells. Són altaveus de boira. Sí, doncs són cors de boira i les campanes del catedral de Colònia en mateix moment. Era un moment fantàstic, era un moment màgic que només es pot fer per la ràdio. Doncs, altre esdeveniment en 83, aquesta vegada, també de Fontana, era per el centenari del pont de Brooklyn, que tenia a l'època una superfície així, de metall. Ara no està cobert d'asfalto. El pont de Brooklyn, en 1983, a célébrer son centenaire, et Fontana a fait une installation sous cette superficie qui était à l'époque la superficie du pont. Maintenant c'est couvert en asphalte, mais avant c'était comme ça, et donc ça a fait un son particulier, faisait un son molt particular amb els cotxes. Donc ça, c'est un accès de, maintenance sous, sous le pont, oui, pont. Par sorte de la carretera, un accès. Et ici, on a posé, et j'étais avec Bill quand il a posé, j'ai aidé à la pose des 8 micros. Et a aidé à l'artiste de poser 8 micros qui ont envié le son, qui ont envié le son à 8 altaveos, à 8 haut-parleurs dans la façade du World Trade Center. Donc, ni la superficie, ni le bâtiment existent maintenant. Très éphémère, hein? Ni à la superficie de la carretera, ni à l'édifice du World Trade Center existait, mais donc, era une installation molt éphémère, éphémère. Però també hem enviat un mixatge, una mescla de 2 canals a la ràdio. On a travaillé à New York. Nous avons aussi envoyé un mixage de 2 canaux dans le studio de ma radio publique à New York, où on a pu à n'importe quel moment écouter qu'est-ce qui se passe sur le pont de Brooklyn. Et donc, à cette possibilité d'écouter à qualsevol moment el que passa en el pont de Brooklyn és interessant per 2 raons. És un transport de temps real, en temps real, d'un so distant, que és un característic de moltes obres de Bill Fontana, però també és una compressió de temps o de distància. Perquè un temps llarg de travessar el pont està condensat també en el World Trade i encara més en la ràdio en una distància molt més curta. Donc, cette idea de compressió d'espace-temps, c'est ça qui fait l'intérêt de ce travail. Et en fait, encore une fois, c'était l'utilisation de temps réel, l'utilisation de temps réel, qui transforme cette installation sonore en obra radiofonica. C'est ça qui change une installation en œuvre radiophonique. Maintenant, faisons le saut à Barcelone, de New York à Barcelone, où j'avais l'objectif de faire un portrait sonore de Barcelone très tôt dans mon existence à Barcelone. Donc je ne connaissais pas vraiment la ville et j'ai fait la découverte à travers ce travail. Le titre dans la série Métropolis est Barcelona de la Seba. Et il faut expliquer à non-catalan que, premièrement, Barcelone est une ville qui a une structure en couche, tout comme un oignon. Seba, ça veut dire oignon. Et donc il y a le cœur roman au centre. Après il y a la partie gothique qui est très compacte et dans les anciens murs. Puis il y a la partie moderniste qui qui se voit surtout dans la section qui s'appelle les Champles, ça veut dire l'expansion. Et puis, encore plus loin, il y a des villages qui ont existé indépendamment avant, qui ont été ajoutés, annexés à la ville de Barcelone plus tard, comme le quartier de Gracia ou plein d'autres. Finalement, il y a une sorte de vernis moderne qui couvre tout. Et donc, j'ai dit à ma femme que Barcelone était comme un oignon. Et elle me dit, mais il y a une expression en catalan, de la ceba. Et quelqu'un de la ceba, c'est quelqu'un enraciné dans le terroir et probablement un peu opiniâtre et têtu. Il y a un double entendre et j'ai dit tout de suite, il faut que ça soit le titre de l'œuvre. Et j'ai fait, en fait, une forme à travers cette structure en couche. Mais avant, je veux parler un peu de bruit comme matière primaire de composition. Parce que normalement, on utilise le mot bruit uniquement quand ça fait nuisance. Quand ça nous intéresse, on parle des sons. Et donc, il y a des. Encore une fois, il y a cette idée qualitative de différencier les bruits et les sons. Mais comme ancien de théâtre, qui a travaillé avec le son comme matière plastique pour modéliser l'espace, tout comme on fait avec la lumière, j'étais très attaché à cette idée de son, n'importe lequel, comme matière plastique, comme matière primaire avec laquelle on compose. On dit que comme... Ah, si.
Perquè si no, sí. L'únic salafagí que no ha aparegut, diguem-ne, en pantalla és que l'obra Barcelona de la Ceba i la va començar just quan feia molt poc temps que estava a Barcelona, per tant, no coneixia la ciutat. Per ell, la ciutat va tenir, diguem-ne, una experiència d'ella primer sonora i a partir d'aquesta experiència ell parla d'una Barcelona de capes de sons, amb els barris que heu vist aquí posats. I després ha parlat de la qüestió del soroll. Normalment parlem del soroll quan ens molesta un so i en canvi parlem de so quan ens interessa aquest so. Mentre que ell no treballa amb aquesta distinció, sinó que considera el so amb el seu, diguem-ne, amb la seva especificitat plàstica, el treball plàstic del so. Ja.
Et donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit ce matin. Quelqu'un a parlé de Cage, que tout ce qu'on fait est musique, everything is music. Mais Cage a dit, écoutez, quand je traverse la rue, si j'utilise la méthodologie aléatoire, je prends ma vie à risque. On est dans les modes différents, au moment différent de la vie. Et donc, si on prend un bruit, une nuisance, et on le met isolé dans un cadre spécifique, ça change le contexte. Ou si on passe ce bruit d'un contexte environnemental, à une salle de concert ou à la radio, ça devient un élément avec lequel on peut composer exactement de même manière qu'on compose la musique. Et donc, Ça rejoint peut-être un peu l'idée de Francisco Lopez, sauf moi je manipule beaucoup plus mes sons que lui, mais que n'importe quel son est matière plastique compositionnelle, tout à fait. Tout à fait.
C'est ça.
Ouais. Et donc, les bruits deviennent des sons quand on les recontextualise. Et ça, c'est intéressant comme théorie. Je dois dire aussi que c'était assez intéressant pour moi de revisiter cette œuvre que j'ai faite il y a 16 ans et de l'analyser un peu comme académique. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, ça, c'est. Je vais vous faire écouter juste le début de cette œuvre qui se passe au centre roman. Ah, pardon, je ne peux pas. Pas tout à fait le début.
Ellos dijeron, ellas dijeron cuando vinieron que no podían.
Siento que me armaron ahí.
La seule chose qui manque avec toute cette matière, c'est de donner un peu de la forme. Et ça, c'est la forme de l'oignon que j'ai donné à cette œuvre. Donc ça suit la structure des couches concentriques. Et en plus, il y a j'ai choisi un signal. Un signal qui marque le passage d'une couche vers l'autre. Et donc, dans cette couche, dans ce signal, il y a deux sons, je dis, emblématiques de la ville de Barcelone. Premier, c'est la cloche de l'église de Santa Maria del Mar, qui est une cloche qui était abîmée pendant la guerre civile par des balles et donc qui est déréglée. Et l'affinage est un peu bizarre. Et le second, c'est ce qu'on appelle als butanes. Ce sont des vendeurs de bouteilles de butin qui claquent sur la bouteille pour annoncer leur présence. Et ça s'entend partout à Barcelone. Et donc, et au hasard, j'ai fait un seul enregistrement qui contient ces deux sons. Et c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que j'ai décidé de l'utiliser. Voici l'enregistrement original dans son état, disons, pur. Ce qui est intéressant, quand on était en train de transférer ces pistes sonores, ces enregistrements dans le studio, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle en allemand un Tonmeister. Un Tonmeister, c'est beaucoup plus qu'un ingénieur de son. Un Tonmeister, c'est un maître de son. Et donc, c'est des ingénieurs artistes, on peut dire. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, j'espère que vous n'allez pas faire beaucoup de mixage, parce que les mixages sont déjà dans vos enregistrements. Alors, on parle de subjectivité ici, c'est ça la subjectivité aussi. Le choix de ce qu'on enregistre. Je vais parler un peu plus de ça. Mais c'est important.
Del que potser no s'ha pogut seguir, d'aquí simplement afegir, a part del que heu anat llegint, és que en la primera part que hem escoltat era una part, un fragment de la peça que ja havia construït amb aquest so en forma, amb aquestes capes sonores, no? De, com de la forma de ceba que ell volia crear de la ciutat de Barcelona, i que hi havia dues marques o senyals que li ajudaven a fer la transició entre un espai i l'altre, que d'una banda eren les campanes de Santa Maria del Mar, que a més tenen aquesta significació històrica de que van ser destruïdes, diguem-ne, pas destruïdes, però sí, diguem-ne, fetes malbé durant la Guerra Civil, i que després es van arreglar però han quedat amb una afinació una mica estranya. I l'altra marca sonora de la ciutat, ell la prenia com el so dels botaners, que és el que heu vist ja, i llavors ens ha posat un exemple d'una gravació en la qual tots dos sons confluïen a l'atzar. El següent, l'últim que hem escoltat, no era un treball d'ell de remescla, sinó que era l'original, i explica que després, quan amb un mestre de so, d'un enginyer sonor a Alemanya, va anar amb aquest fragment, el mestre de so li va dir: espero que no facis masses barreges de so, perquè en la pròpia gravació ja tenim aquesta barreja. I això ell l'ha fet passar a un tema que és la qüestió de la creació de subjectivitat, que vindrà després, però que té que veure amb el fet de l'elecció a l'hora d'enregistrar un so, perquè evidentment hi ha una decisió personal a l'hora de col·locar-te en un espai o en un altre, no? En funció d'allò que vols fer.
Cette structure en forme d'oignon, je ne suis pas sûr que c'est audible aux auditeurs, au moins pas à tout le monde. Mais qu'importe, ce que ça a donné, c'était m'aider à structurer mon travail de compositeur. Sans cette structure, je n'aurais pas pu créer cette œuvre. Et donc, la forme, c'est une abstraction, mais c'est aussi une guide au moment d'enregistrement autant qu'au moment de mixage. C'est-à-dire qu'au moment d'enregistrer, il faut penser au mixage, à la construction. Et donc, on est tout le temps conscient, et ça c'est aussi la subjectivité de ce qu'on veut construire. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de bonnes matières avec lesquelles on ne peut rien faire. Donc, la subjectivité est à la fois acoustique et esthétique. Première chose, cette œuvre qui était faite en 2001, c'était faite dans une autre situation politique et sociale que la situation actuelle en Catalogne. Et d'écouter cette œuvre aujourd'hui, avec ce qui se passe politiquement et socialement dans ce pays, ça change totalement la perspective pour n'importe quel auditeur par rapport à l'écoute qu'on a pu avoir en 2001. Et donc, dès le début, tout simplement par la situation, on est dans une situation subjective. Un commentaire qui a fait Schoening, quand il a écouté cette œuvre, il a dit: la plupart des œuvres dans la série Metropolis sont comme des regards de l'air, une sorte de regard acoustique planant sur la ville. Et il a dit, le tien, c'est beaucoup plus sur terre. Ça aussi m'a plu. J'ai beaucoup apprécié cette observation. On a parlé un peu de ça ce matin. Ce n'est pas simplement les bruits qui sont la matière acoustique avec laquelle on compose, mais c'est aussi l'acoustique dans laquelle ces bruits sonnent. Et donc, et au moment d'enregistrer pour cette œuvre, j'ai fait beaucoup d'attention de plusieurs choses. Le positionnement du micro et aussi la situation acoustique dans laquelle on était. Et donc, j'ai choisi certains points d'intérêt sur lesquels je voulais focaliser. Il y avait des endroits où, parfois, des parcours où l'auditeur émerge d'un espace acoustique vers un autre. Donc, c'est une transition acoustique. Il y a aussi des endroits où on entend plusieurs événements acoustiques en même temps sur les deux côtés de la tête. Donc la stéréophonie est assez intéressante. Ce qu'on vient d'entendre dans le marché de la Boquerie, ça représente un. Il y avait une dame sur un côté parlant de Alicante es Alicante, Valencia es Valencia. Et pendant que sur l'autre côté, on discute une autre transaction sur un autre stand. Tous ces moments sont choisis. Hein. Et le positionnement, c'est-à-dire que je me suis positionné exprès pour capter ce type de choses. Il y a aussi des points ou des parcours où il y a des mixages naturels, ce qui a noté le Tonmeister. Et puis, il y a des sons dits emblématiques, très représentatifs, qui peuvent être culturels, c'est-à-dire que ça c'est généralisé. Donc, ce sont des symboles acoustiques pour tout le monde, mais ça peut être aussi personnel. Je donne comme exemple de son emblématique personnel à moi, que j'ai grandi dans une maison qui avait un chauffage à vapeur. Et donc les radiateurs avaient des soupapes qui ont fait un bruit d'échappement de vapeur, un peu comme... Et j'ai entendu ça en tant que petit garçon quand je suis allé dormir. Et donc ce son, pour moi, c'est un son de sécurité, de protection, etc. C'est très emblématique pour moi. Si vous l'entendez, ça ne signifie pas forcément la même chose pour vous. Tu
veux traduire ça? Amb l'últim punt, els sons emblemàtics, que són culturals o personals, ell ha recordat que són sons que d'alguna manera nosaltres associem a una experiència vital. I ahir ha posat l'exemple de quan era petit que hi ha viscut en una casa que tenia el sistema de calefacció a vapor i llavors sentia aquest so, que jo no traduiré perquè ja l'ha fet, se sentia aquest so que era el moment en què s'escapa el vapor i que per ell cada vegada que anava a dormir sentia això i per tant era un so que li portava seguretat, però que clar, són culturals o personals perquè òbviament són sons que nosaltres podem associar d'una altra manera.
Doncs aquí, uns quants sons emblemàtics de Barcelona, quelques sons emblemàtics de Barcelona. Ça, c'est dans la Place Real, donc il y a des gens qui jouent au foot. Et il y avait un grand générateur. Et ce passage, c'est juste... je suis en train de m'approcher du générateur.
pare, recaptaré el perdó. I el pres que era més jove, petita, bonica, li donaré els amors, l'aireta, l'airó. Bon dia, lo meu pare, us vull demanar un favor. Ai, digues, filla meva, petita, bonica, quin do vols que jo et do, l'aireta, l'airó. El que jo vull per mi, les claus de la presó. Ai, filla margarida, petita, bonica, això no pot ser, no, l'aireta, l'airó.
Hola, hola!
Ça, c'est le défilé des dragons lors de grandes fêtes de Mercé, qui est la grande fête de Barcelone, de la ville de Barcelone. C'est aussi un exemple d'un mélange, un mixage naturel. Il y avait plusieurs fanfares qui sont passées dans le même lieu et où la réverbération de son a fait un mixage des différents rythmes de tambour, différents rythmes de marche, etc. Alors, on fait aussi des choix très subjectifs au moment de mixage. Et donc là, c'est un exemple de quelques différences, des contrastes, qui sont des contrastes sur le même son, enregistrés des perspectives différentes. Où en fait, j'ai essayé de faire un contraste remarqué, là où on n'aura pas naturellement.
Tu veux?
Sí, ha explicat que aquí el que ha fet, intentar fer, és un contrast molt marcat, no? Sense que hi hagi, diguem-ne, un contrast natural, que l'ha fet aquí en la composició.
Sí, del mateix so.
Del mateix so,
de perspectives
sí.
Diferents.
Sí.
¿Y el señor con la música? ¿Para la orquesta?
À une présence s'approche.
Ah,
perspectiva del so.
Otra perspectiva cultural.
Bueno, porque no tenim tot el temps, vaig directament al final. I això, ça c'est la coda dans le sens musical. Et donc, avec beaucoup de enregistrements étendus, pendant l'œuvre, qui a laissé sonner, puis à la fin, j'ai fait une empilation qui est un peu comme un bon coda musical, une reprise et un dénouement en même temps.
Al final de la peça és una coda amb el sentit musical, és a dir, prendre els sons que prèviament han estat apareixent al llarg de la peça i, com una bona coda musical, fer-los aparèixer de nou d'una altra manera.
Petita bonica, el més jove de tots, l'aireta, l'airó. Ai, filla margarida, que morto per amor. Ai, pare, el meu pare, petita bonica, que jo moro d'amor, l'aireta, l'airó.
Merci.
Moltes gràcies, Rai, per aquest retrat de la ciutat de Barcelona del 2001, que, com tu dius, seria molt, molt diferent ara. Anem molt justos, però de totes maneres, si hi ha alguna qüestió del públic que vulgueu posar, si hi ha de qüestió... A propos de l'intervenció de Rai Galón. Oui. Attends.
Et juste une précision, je pense que tu ne l'as pas dit, le temps qu'il t'a fallu pour créer cette pièce, et avec quoi tu l'as enregistré?
Comment?
Le temps qu'il t'a fallu...
Pour le construire?
Oui, tu as dit 2001.
J'ai enregistré pendant 10 mois.
D'accord. Et l'équipement? Avec quoi?
Un DAT.
Comment?
Un DAT.
Ah.
Qui a été volé la veille du mixage. Non, c'était volé.
Ouais. Li han demanat quant temps va trigar i ha dit que han estat 10 mesos que va estar fent enregistraments. I el document ha estat perdut, no? El document ha estat perdut, has dit?
No, però la màquina sí.
La màquina sí, no? La màquina d'enregistrament, sí. D'acord. Hi ha alguna altra qüestió? No? Doncs moltes gràcies, Rai. Quasi que passem ja a... Il y a un autre? Oui? Ah, excusez-moi. Aquí, Christine.
Non, c'est pas une question, c'était juste que ça me semblait... moi, j'ai lu... Je ne connaissais pas votre travail, donc vraiment merci. Et j'ai lu l'ouvrage de Daniel Day pour une écriture du son. Donc, qui est cette question aussi de la prise de son, enfin des points d'écoute dont vous parlez, et qui sont une vraie herméneutique finalement, une vraie interprétation, c'est-à-dire que peut-être que cette idée de Barcelone 2011 qui était près de la Terre, c'est voilà, c'est la subjectivité, c'est aussi l'interprétation finalement et l'interaction.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut dire aussi dans cette question de subjectivité, et ça s'applique aussi pour l'œuvre de Lopez, on est assujetti, et Makis a fait allusion à ça, des conditions de restitution sonore. Et on est un peu dans une situation qui est pour le type de son qu'on est en train de passer, une situation un peu exécrable ici, malheureusement. Mais plus souvent que non, on est dans cette situation, dans les salles publiques, etc. C'est une situation qu'on rencontre souvent si on n'amène pas ses propres matos sonores.
S'ha preguntat... sobre la qüestió de la presa de so en el moment que tu decideixes prendre el so en un lloc o en un altre, és una qüestió de subjectivitat, com deien, amb el sentit d'una interpretació. El fet d'agafar una presa de so en un lloc o en un altre implica ja una posició, que és una posició interpretativa, no és una posició, diguem-ne, ingènua, sinó que ja porta tot aquest bagatge i aquesta decisió per part del compositor o de l'artista que està enregistrant.